On a donc reçu la mission d'appliquer notre modèle entre neurosciences et psychanalyse, notre modèle centré dans un premier livre sur la question de la plasticité et de la singularité, le deuxième livre sur la question du plaisir et plus précisément de l'au-delà du principe de plaisir, revisité de Freud, de l'appliquer à la question de la périnatalité. Et c'est vrai que donc c'est une expérience pour nous de le faire, pour moi en particulier, parce que des fois je mets, quand tu dois faire des listes académiques, que je m'occupe de périnatalité, de biotechnologie, de procréation médicalement assistée, de choix du sexe chez les intersexes, et d'autre part, du lien neurosciences-psychanalyse. Donc là, vous encouragez de faire l'intrication des deux. Donc c'est une expérience qui nécessite une réflexion que d'ailleurs nous avons déjà presque commencé avec René Roussillon dans une conférence qu'il a donnée tout récemment à Genève. Peut-être l'élément principal pour démarrer, c'est la question de l'inachèvement du petit homme à la naissance. C'est-à-dire que le bébé est le plus néoténique des vivants, et que cette dimension de l'inachèvement pose une question qui nous semble, pour nous, centrale, et que je vais essayer de vous exposer brièvement. Au commencement est l'état de détresse, Hilflosigkeit, comme disait Freud. Peut-être cet état de détresse est une hypothèse freudienne rétro-projetée depuis la cure analytique. En même temps, dans tout le trajet que j'ai moi-même fait dans la recherche autour des stress périnataux, de la prématurité, on rencontre la question de la prématuration physiologique du petit homme et la fonction de cette prématuration. Donc, au début, au commencement, on va mettre l'inachèvement, la détresse, qui, au fond, implique une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que le vivant, qui sera central dans notre parcours, le vivant, un terme qu'on a choisi et qui est très présent dans nos livres, le vivant, au commencement, a une potentialité destructrice. C'est-à-dire que, avant d'être... dans une situation traumatique par rapport à des événements, à des situations extrêmes dans lesquelles peuvent être plongés les enfants, il y a cette confrontation avec le vivant en excès. Et d'ailleurs, on peut se dire que la psychopathologie de l'enfant abandonné à la naissance, dans l'anonymat des soins, dans l'absence de réponse de l'autre, est traumatisé par le vivant en lui, avant d'être traumatisé par ce qui se joue dans son environnement. Donc, il y a une effraction qui vient d'un vivant qui n'est pas encore organisé comme une pulsion. C'est-à-dire, déjà, la pulsion est un trajet du vivant inscrit par l'autre, qui, au fond, va petit à petit organiser quelque chose dans ses différents registres fonctionnels. Au début, l'état de détresse témoigne de quelque chose qu'on met, puisque là on a le temps et qu'on peut réfléchir, et que je mets ça aussi pour tous ceux qui vont nous discuter ou qu'on va discuter ensuite, c'est une question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cet inachèvement, cette disharmonie, cette absence d'inscription de quelque chose qui est inaugurable et qui permet justement l'inscription. Donc le traumatisme précoce, et même dans les situations d'abandon extrême ou aussi de maladie, on peut dire que c'est un traumatisme souvent par non-événement, je dis souvent sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'événement de la rencontre avec l'autre, et que l'enfant est laissé aux prises avec le vivant qui n'a pas de sens, qui l'envahit, qui le met dans des expériences où son cerveau, on reprendra ça après plus en détail avec Pierre, est bombardé en permanence par un excès d'excitation, il n'est pas inscrit dans quelque chose, d'une excitation interne. Donc, le traumatisme précoce, les stress périnataux, c'est des traumatismes dus au vivant, avant d'être des traumatismes dus à l'environnement ou à l'expérience précoce, difficile. Alors, par rapport à cet inachèvement, à cet état de détresse, Hilflosigkeit, disait Freud, c'est-à-dire que vraiment, bon, qui a été traduit en français par nouveau français, désert, il n'y a de solution que à travers l'action spécifique de l'autre. Je dois dire que à partir des travaux contemporains sur le bébé, à travers toutes les recherches qu'on a faites, dont j'ai eu l'occasion avec le public déjà, m'ont entendu parler de ça, des stress périnataux, de la prématurité, etc. L'expérience de satisfaction que Freud énonce dans l'esquisse est d'une pertinence assez ahurissante du point de vue de ce qu'il développe. Puisqu'il dit lui-même la chose suivante dans l'esquisse, c'est que l'organisme seul n'est pas capable de décharger l'oxydation qui l'habite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, justement, de cet inachèvement qui fait qu'il n'y a pas de programme pour décharger l'oxydation interne, et qu'il faut l'acte de l'autre. Et que, Freud le précise, l'acte de l'autre doit surgir dans la simultanéité, c'est-à-dire qu'il isole Gleichzeitigkeit. Ça veut traduire, on peut traduire simultanéité, c'est-à-dire qu'il n'y a ni trop tôt, ni trop tard, hein, et qu'il y a comme une fenêtre temporelle qui aussi aujourd'hui est au centre de certains débats dans les neurosciences et les recherches autour de la détection de coïncidence dont Pierre pourra aussi dire un mot, c'est-à-dire que pour qu'une trace s'inscrive, il faut que l'acte de l'autre intervienne ni trop tôt ni trop tard, et Freud situait la simultanéité. Donc au commencement et à l'achèvement, pour aller lentement dans le modèle et qu'on puisse réfléchir, au commencement et l'inachèvement, par rapport à cet inachèvement, ce qui est premier, c'est la réponse de l'autre, l'acte de l'autre. L'acte de l'autre qui permet la décharge de l'excitation et associé à un plaisir, un soulagement. Quelque chose qui, rétrospectivement, sera désigné comme un plaisir. Et ça, je crois que c'est justement une question tout à fait particulière. Et difficile de savoir si c'est un plaisir ou si c'est un non-déplaisir. Parce que finalement, le principe du plaisir freudien, c'est surtout un principe de non-déplaisir, plutôt qu'un principe de plaisir. Alors, la décharge d'excitation, on reviendra là-dessus, permet l'inscription d'une trace, une trace associée à un état somatique qui marque l'expérience de plaisir et qui, petit à petit, participe à l'émergence du sujet, à la production du sujet. Alors, ce qui était central au début de ce développement sur l'application de nos travaux au lien entre, avec la périnatalité, c'est de dire que avant qu'on dise comment la trace, il y a une dimension du pourquoi la trace qui est fondamentale, puisque la trace a en elle-même une fonction homéostatique. C'est-à-dire que pour quelque chose puisse trouver son équilibre et son fonctionnement, il faut une trace. Il faut l'action de l'autre, il faut la réponse de l'autre, il faut entrer, s'arrimer au monde de l'autre pour que quelque chose se construise sur le plan psychique. Ça veut dire que la trace a une fonction homéostatique. C'est le sujet surgit du vivant en excès par l'opération de l'autre, par l'opération de la trace, si on veut faire lacanien, par l'opération du langage. C'est une phrase de Lacan, le sujet surgit du vivant par l'opération du langage. Et il fait du langage un opérateur, l'autre un opérateur, avant d'être une fonction de représentation. Une opération vitale, quoi, c'est vital. Cette opération de la réponse de l'autre et de l'acte de l'autre. Et comme le disait Freud dans Au-delà du principe de plaisir, cette phrase qui est nette et précise, qui permet vraiment toute l'orientation de la clinique périnatale et de la clinique du jeune enfant, c'est-à-dire de la sensorialité, la mise en place de la sensorialité, c'est-à-dire que les fonctions de protection sont très éminentes par rapport aux fonctions de perception. C'est une fameuse phrase de Freud dans, au-delà du principe de plaisir, lorsqu'il développe son hypothèse sur les fonctions de par excitation. C'est-à-dire que par rapport aux situations de stress périnataux, de stress à l'aube de la vie, on peut se demander si ces éléments sont dus effectivement à une trace laissée par une expérience traumatique précoce, ou au contraire, à un excès d'excitation toujours présent par défaut de trace. C'est-à-dire que ça, c'est pour ouvrir la question, hein, puisqu'aujourd'hui, on est dans une salle avec pas mal de monde. L'idée, c'est qu'on est dans un petit séminaire destiné à travailler ensemble avec les collègues avec lesquels on échange depuis maintenant pas mal de temps. Et que tout ça doit être mis au travail et à la réflexion. Mais c'est très important parce qu'on a des fois l'impression qu'on interprète les traumatismes précoces comme des traumatismes qui laissent des traces ou des cicatrices, alors que peut-être justement c'est l'absence de la formation d'une trace qui fait qu'il y a comme un trou où l'excès du vivant continue à submerger complètement les capacités de traitement de cette excitation interne. Donc on serait traumatisé, peut-être psychanalytique classique, d'abord par sa propre excitation interne, d'abord par le vivant en soi. Et que, comme le dit Freud aussi dans l'esquisse, peut-être au commencement il y a le cri du vivant qui est un besoin, enfin, urgence de la vie, hein, notre Tesla, il y a quelque chose de l'urgence de la vie qui est un concept peu présent chez Freud parce qu'il en parle dans le texte sur les théories sexuelles infantiles. Et en même temps, toujours en filigrane de son œuvre, hein, c'est-à-dire qu'il faut traiter quelque chose du vivant qui déborde, et que ce traitement de ce vivant, ce cri, qui est peut-être un cri sans signification, ce premier cri, peut-être tout simplement même celui qui produit le changement de système respiratoire, enfin, tout au début de la vie, doit être traité par la réponse de l'autre qui effectivement du même coup arrime l'enfant quand il le peut au monde de l'autre déjà là, c'est-à-dire l'arime le fait entrer dans le monde du langage, dans le monde de l'autre, dans le monde des symboles, transformant le cri en appel, en demande, et qui est une notion qui est présente dans l'esquisse et qui a été beaucoup reprise par Lacan, cette question de la transformation du cri en appel par le fait de la réponse de l'autre, avec une interrogation clinique sur comment se noue, ça je reviendrai là-dessus plus tard, comment se noue la dimension pulsionnelle avec la dimension de l'arrimage au monde du langage, produisant progressivement le sujet. Donc si on reprend ce schéma de la fonction homéostatique de la trace, on voit que toute trace est évidemment une solution par rapport à un état somatique en excès. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de trace sans un état du corps. Et même que la trace est un traitement de l'état du corps. Donc, dès le début, on a une interaction. Alors, on reviendra sur ce schéma, entre des états du corps, des états somatiques, et des traces, ou des représentations, ou des proto-représentations, ou des signifiants, ou des phénomènes langagiers, quelque chose qui vient de l'autre, des significations. Hein. Je crois que pour le moment, je ne préférerais pas entrer dans une idéologie psychanalytique particulière, juste prendre, comment dire, un pas de recul par rapport à la question en disant, voilà, on est face au problème de la dimension vitale de l'autre par rapport à l'inachèvement du fidome pour lui permettre de traiter le vivant en excès, et que du coup, on a constamment une interaction entre la question du vivant et la question du langage. Bon, là, je pense qu'on reprendra ça plus tard, ce schéma, mais qui me vient d'indiquer, c'est-à-dire que On pourrait se dire, d'un côté, il y a des stimuli extéroceptifs qui sont perçus par les systèmes de perception. Freud parle de Wahrnehmung, Zeichen, de signes de perception. Le signe de perception, c'est le cœur de notre journée, le signe de perception. C'est-à-dire, c'est le premier contact entre le vivant et l'autre. Wahrnehmung, Zeichen, c'est ce que Freud met dans la fameuse lettre du 6 décembre 1896, le fameux schéma que je vais mettre là, voilà, c'est mieux de prendre le schéma de Freud lui-même, qui est assez étonnant, ce soir du 6 décembre 1896, où il dit d'abord la perception, et ensuite le signe de la perception. Donc qu'est-ce que c'est que le statut du signe de la perception au regard des travaux sur le bébé, au regard de nos connaissances sur la clinique du tout jeune enfant et au regard des développements des neurosciences. Ça, c'est un point absolument fondamental. Et ensuite, comme on le verra, ce signe de la perception pour Freud, vous le savez bien, est retranscrit, retraduit, sous différentes formes, inconsciente, préconsciente et consciente. Et ensuite, il a fermé le schéma, enfin, je ne vais pas refaire tout le... toute l'histoire de la psychanalyse, il a fait un schéma, puisque dans ce schéma-là, Freud suggère que n'est conscient que ce qui a d'abord été inconscient, alors qu'après, il a fermé le schéma de manière circulaire, avec un système perception-conscience direct et un autre destin de la trace de réinscription en réinscription. On reviendra là-dessus, mais je voulais juste pointer à la fin de ce premier passage sur néothélie, inachèvement, et fonction homéostatique de la trace, toute la question du central du signe de la perception. Signe de la perception qui correspond aux stimuli externes. Et dire aussi que l'autre débat entre psychanalyse, neurosciences et périnatalité, c'est le Vorstellungsrepräsentanz, c'est-à-dire le représentant de la représentation. Quel statut aujourd'hui on donne cette intuition géniale de Freud? C'est vrai que je m'enthousiasme beaucoup pour Freud de plus en plus. Donc, alors que le mouvement contemporain va dans le sens de s'enthousiasmer de moins en moins, mais moi j'ai l'impression que chez Freud, il y a l'avenir de quelque chose, et pas le passé d'une idée, et qu'il a construit un modèle, et je pense que c'est mieux que Pierre développe ça, mais qui au fond permettrait aussi certaines avancées en intégrant ce modèle aux recherches des neurosciences. Donc ce double modèle où d'un côté il y a le signe de la perception et de l'autre côté il y a le représentant de la représentation, pour que je te représente par rapport au stimuli interoceptifs, est un moyen d'entrer dans la dialectique de la trace à la fois de l'expérience, mais trace de l'état somatique associé à l'expérience. Donc, voilà, première partie, c'était comme un bloc, on peut discuter, dans la perspective annoncée, autour d'inachèvement des fonctions de notre vie. Je pense que maintenant, c'est bien qu'on prenne le deuxième temps de la discussion, c'est-à-dire deuxième abord neurosciences et psychanalyse de la périnatalité, construire un modèle d'exploration de la périnatalité, c'est-à-dire la question de la plasticité, de l'inscription de l'expérience dans l'émergence du sujet et de l'individualité.
Donc, on a parlé de traces, c'était même dans le titre de cette journée. Alors, la question est de savoir comment s'inscrivent les traces de l'expérience extéroceptive et les traces aussi des états du corps dont vient de parler François. Et je vais brièvement passer en revue quelques points importants que la neurobiologie récente a amené dans notre compréhension de cette inscription de la trace, de cette inscription de l'expérience. Je ne vais pas aller dans le détail. D'une part, j'en avais déjà parlé ici l'année passée, donc ça tombe dans le coup, j'étais déjà là l'année passée. Puis, on l'a largement écrit dans notre premier livre, et puis c'est finalement des concepts qui sont assez connus maintenant. Donc, je vais vraiment essayer de pointer quelques aspects qui sont importants pour la suite de la discussion. Donc, je vais donner plein de définition de la plasticité, déjà en partant simplement de la constatation qui est aujourd'hui une évidence, mais il était peut-être un peu moins il y a 10 ou 20 ans, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas un organe figé en termes de fonctionnement. Les éléments constitutifs du cerveau sont bien entendu les neurones, il y en a une centaine de milliards, ça veut dire à peu près 100 milliards avec ces chiffres qui donnent le vertige. Mais ce qui est important de savoir, de nouveau, je m'excuse pour ceux qui connaissent ça très bien déjà, mais enfin je reprends ces quelques points, eh bien les neurones échangent des informations au niveau des synapses, donc un neurone standard, existe un neurone pyramidal du cortex, mais tous les neurones essentiellement fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire avec une zone de réception des signaux dans cette région qu'on appelle les dendrites, c'est-à-dire l'arborisation dendritique, et en particulier à des endroits particuliers les dendrites qu'on appelle les épines dendritiques, comme des épines sur une tige de rose. Et ensuite, le corps cellulaire, où se fait l'intégration de l'information, d'ailleurs un petit peu aussi au niveau dendritique, et puis une zone d'émission qui est l'axone, et l'axone libère des neurotransmetteurs essentiellement le glutamate qui est excitateur et le GABA qui est inhibiteur, il y a d'autres modulateurs, et voilà, déclenche les effets, les réponses dans les neurones-ci. Mais le point important, c'est qu'il y a cette zone de transfert d'information qui est la synapse. Et en fait, un neurone peut recevoir jusqu'à 10 000 synapses. Donc, si vous faites 10 000 fois 100 milliards, ça fait 10 à la puissance 15 sites où il y a un transfert d'information qui se produit dans le système nerveux. Et un point vraiment important au sens de la plasticité, c'est de se dire que le transfert d'information au niveau de ces synapses n'est pas quelque chose de constant et figé une fois pour toutes, quelque chose de binaire, plus, moins, mais qu'en fait, il y a une variation de l'efficacité du transfert d'information au niveau synaptique, et que c'est là une des bases de la plasticité qui a été étudiée tout particulièrement dans les paradigmes d'apprentissage de mémoire et d'apprentissage plutôt cognitif. Donc c'est là où les avancées ont été faites, mais ces informations sur le fonctionnement synaptique et sur la plasticité synaptique, nous pensons, peuvent être prises également pour imaginer comment un inconscient, une réalité interne inconsciente se construit essentiellement par des mécanismes analogues, mais qu'on va développer. Donc, premier point important, la plasticité, c'est donc cette propriété du système nerveux de modifier en permanence l'efficacité synaptique, et dit autrement, on peut dire, c'est l'ensemble des mécanismes par lesquels l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Et en fait, cette trace, on verra dans un instant, elle est bien sûr fonctionnelle, dans le sens que, comme je viens de le dire, l'efficacité du transfert d'informations peut varier, peut être plus ou moins efficace, mais aussi structurelle, et qu'il y a des micro-changements, des modifications morphologiques microscopiques, mais très importantes du point de vue fonctionnel, au niveau de la synapse. Alors, voilà simplement le rappel donc, de ce point de contact, de transfert d'information. En fait, ce n'est pas un contact physique, c'est un contact fonctionnel au niveau de synaptique, avec ici la terminaison d'un neurone, terminaison axonale, et là, cette fameuse épine dendritique, qui est une zone qu'il faut vous imaginer comme extrêmement dynamique et qui peut, en fait, se dupliquer, diminuer de taille, augmenter de taille, et donc en fait par les mécanismes de plasticité. Et donc quand on dit que l'expérience laisse une trace, c'est même pas un abus de langage, il y a une vraie trace, il y a un vrai changement microstructurel au niveau synaptique. Alors je vais voir si ça marche, si ça marche pas, bon c'est pas grave, c'est dommage, mais enfin vous voyez ici tous ces petits ça marche pas parce qu'on a mis vous avez des dendrites ici, vous avez ici ces épines, ça, donc c'est un in situ, c'est un cerveau de rongeur. Et en fait, dans une prise de vue accélérée, on voit ces petites épines, donc ces petits points, ces petites structures ici, bouger. Et ça vous donne vraiment une image de la dynamique de la dynamique synaptique liée à la plasticité. Alors, en fait, par rapport au changement d'efficacité, ici un exemple, alors c'est vraiment le prototype de la plasticité synaptique qui a été étudié pendant maintenant plus de 20 ans dans le, au niveau du système nerveux. C'est l'expérience prototypique, mais elle est intéressante, je vais la commenter très brièvement. Elle a, ce modèle qu'on appelle la potentialisation à long terme a été étudié d'abord, enfin tout au début in vivo, mais ensuite étudié en détail in vitro, et on sait maintenant que en fait, chaque fois que des circuits neuronaux sont impliqués dans un apprentissage, eh bien, il y a ce genre de modifications fonctionnelles qui ont lieu. Alors, en deux mots, de quoi s'agit-il ? Vous avez ici un petit bout de cerveau qui est maintenu en survie pendant quelques heures, et vous avez un premier neurone ici, on va appeler CA3, CA3 c'est le nom de la région, mais disons, appelons-le CA3 pour la simplicité, il le projette ici, et en fait, fait synapse sur un autre neurone qu'on va appeler CA1. Alors on peut stimuler ce neurone CA3 avec une certaine intensité et on va enregistrer ici avec une électrode en verre une réponse. Et vous pouvez faire ça des dizaines de fois, la réponse est assez fiable. Vous avez ici un 100%, une ligne de base. Et ensuite, ce qu'on fait, ce que l'électrophysiologie fait, il stimule à très haute fréquence pendant quelques secondes cette fibre. Donc, essentiellement la même intensité, mais à une beaucoup plus haute, à une très haute fréquence. Et ceci n'est pas simplement un artifice de neurophysiologiste, en fait, c'est une manière d'induire une très forte excitation du neurone qui reçoit l'information, d'ailleurs, qui mime un peu ce que, dans un autre registre, François a appelé la coïncidence, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'il y a si vous voulez, ce modèle mime une très forte excitation de ce neurone CA1 qui proviendrait de deux neurones simultanément actifs sur celui-là. Et donc, ce n'est pas un artifice, c'est vraiment ce qui se passe lorsque des neurones sont impliqués dans un circuit impliqué dans un apprentissage. Donc, ce conditionnement très, très fort, en fait, induit des changements parce que si vous reprenez la stimulation, cette fois-ci, après ce conditionnement, donc, enregistrez avant, vous faites un conditionnement et vous enregistrez après avec la même stimulation cette fois, vous voyez que la réponse est beaucoup plus grande. Donc ça veut dire qu'on peut modifier l'efficacité du transfert d'informations avec, dans le cas particulier, dans un dispositif particulier, un artifice expérimental, mais qui est en fait mime ce qui se passe dans des circuits neuronaux impliqués dans un apprentissage. Et en fait, ce qu'il y a également, c'est ce que j'ai mentionné il y a un instant, ce changement fonctionnel, cette augmentation d'efficacité est entre autres liée à une augmentation de la surface d'échange. Et vous avez ici cette fameuse épine dendritique qui, suite à cette stimulation très intense qui se reproduit au moment de l'apprentissage, eh bien vous avez duplications, vous avez plus d'épines dendritiques. Donc plus de sites où l'information se fait, le transfert d'information se fait. Et ce qu'il faut dire, c'est que tout ça est très spécifique, ce n'est pas tout le neurone CA1 ici qui tout d'un coup deviendrait, aurait des épines dendritiques qui proliféreraient partout et serait le site de cette facilitation, c'est très spécifique à quelques synapses qui sont des synapses qui convergent des informations à un moment donné précis dans la simultanéité. Et cette notion de simultanéité dont parlait François tout à l'heure pour l'établissement de la trace, on la retrouve au niveau neurobiologique. Pour que cette facilitation ait lieu au niveau d'une synapse, il faut une simultanéité entre deux événements qui convergent, disons, qui mettent en jeu des circuits neuronaux qui convergent sur les mêmes, sur la même région d'un neurone en particulier, et on a même pu identifier une structure particulière qui est ce qu'on appelle, donne ça comme ça comme détail, le récepteur NMDA, qui est appelé en neurobiologie un détecteur de coïncidence, parce qu'il détecte la simultanéité de deux événements synaptiques, mais qui eux-mêmes sont liés à deux événements qui se passent dans la réalité externe. Et le terme freudien de Gleichzeitigkeit veut dire simultanéité, coïncidence. C'est absolument étonnant de voir que, disons, il y a ces deux niveaux logiques différents, mais sans faire d'analogie facile. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est tout à fait analogue. Bon. Donc voilà comment transfert d'information est modulable au niveau de chaque synapse. Donc je viens de vous dire combien il est important de concevoir ces mécanismes de plasticité au niveau très précis de une ou quelques synapses, et pas d'une excitabilité augmentée de tout un neurone ou de tout un circuit. Et en disant ça, évidemment, il y a le risque de se dire, mais alors ça veut dire que un souvenir, une expérience est codée dans une seule synapse, ce qui serait bien entendu un réductionnisme assez ridicule. Mais donc, je vous mets en garde par rapport à ça. C'est très important, cette simultanéité, cette coïncidence et ces événements très précis qui se passent au niveau de quelques synapses, là où la convergence entre les informations se fait. Mais bien entendu, je pense que vous l'avez aussi deviné, ou vous le savez déjà, ou vous l'avez entendu l'année passée, ceux qui étaient là, parce que je l'ai déjà mentionné, en fait, une expérience et ces mécanismes de plasticité qui aboutissent à une trace ne se réduisent pas à une synapse, mais bien à un ensemble de neurones, on appelle ça neuronal assembly, une assemblée de neurones, un ensemble de neurones, qui ont des synapses facilitées. En fait, on peut dire que la réalité externe est codée par les mécanismes de la plasticité, donc l'expérience vécue est codée par, par les mécanismes de plasticité, en fait, qui se déploient sur des centaines, voire probablement même des milliers de synapses qui engagent des milliers de neurones, et qu'en fait, c'est cette assemblée de neurones distribuée ou cette assemblée de synapses facilitées qui correspond très précisément à une expérience. Et la réactivation de ce même pattern reproduit en quelque sorte, avec bien sûr des modifications dont on va parler, une représentation. On appelle de nouveau ce terme de représentation comme simplement la signature d'une expérience. Alors, qu'est-ce que sont ces assemblées de neurones? Juste parce que c'est une notion importante, on verra que c'est important pour la constitution, nous pensons, de l'inconscient et même de certains mécanismes décrits par Freud, comme par exemple la condensation ou le déplacement. Ces ensembles de neurones, en fait, sont des neurones, des groupes de neurones qui maintiennent des connexions synaptiques renforcées suite au mécanisme de la plasticité. Ils ont donc une haute probabilité de décharger simultanément, d'être simultanément actifs, et donc, quand ils sont simultanément actifs, ce pattern de neurones, et on pense que c'est ça qui est à la base de la réactivation d'un souvenir, d'une expérience. Ils codent justement, cette assemblée code pour une expérience ou un objet. Point très important suivant, c'est qu'un neurone peut faire partie de plusieurs assemblées de neurones. Et ça, c'est une notion vraiment très importante pour l'associativité et pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, des processus de condensation. Alors, les neurones d'une assemblée ne sont pas nécessairement physiquement proches. Bon, ça, c'est tout simplement une notion qui échapper un petit peu à cette notion de localisationnisme dans lequel, parfois, les neurosciences contemporaines nous font tomber. Ce sont des associations hautement dynamiques du point de vue spatial et temporel, ça c'est évident, qu'elles peuvent changer d'efficacité. Et, bon, cette phrase qui est jolie, qui a été formulée par Hebb à la fin des années 40, il y avait eu cette intuition de ce que je viens de vous montrer, Hebb l'avait essentiellement prédit sur une base théorique. Son idée était que neurons which fire together, wire together. Donc, des neurones qui sont actifs ensemble en même temps, eh bien, se lient, they wire, se nouent ensemble, et donc constituent cette assemblée de neurones qui va coder pour une expérience.
Résumons. Donc, l'application de ce qu'on discute dans les deux livres, la périnatalité et la construction, on le met d'une part dans cette fonction de traitement du vivant par rapport à l'achèvement, et là, le développement qui vient d'avoir été refait par Pierre sur la plasticité comme construction de l'individualité, comme aussi phénomène à la base même de l'inscription de l'expérience, qui est évidemment l'enjeu même du devenir de l'individu. Alors là, il y a un point peut-être important, c'est de se dire que ce schéma, il faudrait trouver un moyen de construire un schéma. Je pense qu'il pourrait faire une sorte de spirale sur un axe, avec des retours en arrière. Ma capacité de manier le PowerPoint est insuffisante. Le schéma ici est très mauvais. Il est juste pour présenter dans le discours. C'est-à-dire qu'on peut se dire que par le fait de la plasticité, on reviendra là-dessus, à la fois on a l'inscription de l'expérience sous forme de trace, c'est-à-dire la construction de l'émergence du sujet, et en même temps un remaniement permanent de cette construction. Donc, un changement permanent. Vous connaissez les deux paradoxes centraux, puisqu'on discute, que Pierre et moi nous mettons autour de la plasticité, c'est-à-dire la plasticité introduit une discontinuité, et là, par le fait de la réassociation des traces, on y reviendra, et la plasticité implique un changement permanent. Mais sur la base d'un mécanisme de continuité et de linéarité. Donc c'est quelque chose de complexe. Mais enfin, on pourrait se dire que le fait même que l'expérience, par la plasticité, s'inscrit sous forme d'une assemblée de neurones, c'est un fait, vous avez vu, qui est très intéressant du point de vue épistémologique par rapport à la constitution de la psyché chez le bébé, dans la mesure où c'est un phénomène à la fois spatial et temporel. Finalement, il est plus temporel dans ce qui a été défini que spatial. Bien sûr, sur le plan de la matérialité, de la plasticité, des modifications architecturales du système neuronal, des modifications aussi du transfert d'informations, on est dans quelque chose de spatial. Mais en même temps, les assemblées de neurones, comme l'a dit Pierre, ne sont pas une néophrénologie, c'est-à-dire qu'elles sont avec des neurones à des pôles très différents du système nerveux, qui, justement, constitue une assemblée de neurones, donc peut-être aussi la construction de la sensorialité, très complexe, parce que simultanée, en associant différents modes de façon simultanée. Donc c'est une question qui est à la fois spatiale et temporelle, et la réflexion entre neurosciences et psychanalyse autour de la construction de la psyché, c'est une réflexion sur le temps, et que je trouve très intéressant. Donc on peut dire que l'expérience aboutit à une assemblée de neurones, et que cette assemblée de neurones, évidemment, elle est aussi résulte dans la constitution d'une vie psychique, d'un sujet qui lui-même va produire des actes qui vont être perçus par le système en retour. Et donc, qu'il ne s'agit pas, même si, comme disait Freud dans la négation en 1925, tout dérive de la perversion. Tout dérive de la perception. Tout dérive de la perception. D'un autre côté, mais je n'ai malheureusement pas pu éliminer complètement mon inconscient. J'y travaille. Donc, voilà. Et tout dérive de la perception, mais en même temps, tout dérive aussi, bien sûr, de la perception par le sujet de l'acte. D'ailleurs, dans le paradigme du cri, on peut dire que le premier cri est peut-être un cri du vivant, mais le deuxième cri est déjà marqué d'une signification, et donc il y a une perception du cri par le sujet lui-même. Donc, on a une construction de la psyché, et pas seulement un programme de développement. Ça, c'est peut-être une étape centrale avec la question de la plasticité. La plasticité est toute une série de mécanismes biologiques qui sont au service de l'inscription, mais que cette inscription fait échapper au programme du développement en permettant de distinguer, et ça on va revenir là-dessus, un point très important pour appliquer notre modèle à la question de la périnatalité et du bébé, c'est-à-dire en distinguant devenir et développement. C'est-à-dire qu'évidemment, comme praticien du bébé, comme pédopsychiatre, psychanalyste, travaillant en plus pour moi-même, comme vous le savez peut-être, en pédiatrie, la question du développement et des pathologies du développement est très centrale, mais la plasticité, c'est aussi ce qui permet d'affranchir du développement et de poser la question du devenir. Et là, je crois que c'est une transition très, très importante, c'est-à-dire le fait que la plasticité introduit à une discontinuité.
On pourrait se dire, voilà, tout s'inscrit par ces mécanismes de plasticité et tout est extrêmement déterminé par l'expérience livrée en partie, mais il y a là un paradoxe, justement c'est ça dont parlait François, entre cette tout change et en même temps tout s'inscrit. Et en fait, une manière d'aborder ce paradoxe que nous avons prise et qui nous semble très importante dans notamment la constitution d'une vie inconsciente à partir de l'expérience, c'est la notion de réassociation de traces. Et je vous présenterai d'abord un modèle et ensuite quelques évidences, je mentionnerai quelques évidences neurobiologiques que ceci se passe effectivement. Donc prenons le schéma tout simple, une perception, une expérience, utilisez le terme freudien Wahrnehmung, qui va s'inscrire sous forme d'assemblée de neurones, de traces, de représentations, Wahrnehmungszeichen, utilisant tous ces termes de manière interchangeable, en tout cas pour le point de vue de la discussion de l'aujourd'hui. Donc vous avez ici cette assemblée de neurones qui code pour cette expérience. Et ensuite, imaginons une deuxième expérience qui active une autre assemblée de neurones. Eh bien, par des mécanismes de réassociation, en fait, et on verra comment cela est possible, des éléments de ces assemblées de neurones peuvent se réassocier, par exemple ces trois-là, et constituer de nouvelles traces, donc de nouvelles représentations. Et ce qui est important de noter ici, c'est cette idée de discontinuité. En fait, entre dans ce premier mécanisme, qui serait une première vue de la plasticité, expérience qui s'inscrit dans une assemblée de neurones, il y a une certaine continuité, une certaine linéarité entre ce qui s'est passé et ce qui s'est inscrit. Bien sûr, le cerveau n'est pas un appareil photo, n'est pas une photocopieuse. Il y a la perception d'ailleurs, on sait qu'on peut inscrire des souvenirs et des représentations, et même la perception elle-même déjà utilise seulement une partie de la stimulation externe et puis ensuite le cerveau travaille pour compléter. Donc, automatiquement, ce n'est pas une photocopie de la réalité, mais enfin, globalement, on se souvient de ce qu'on a appris à l'école, il y a le web, les maths, l'histoire, on se souvient de nos vacances, enfin, il y a plus ou moins une cohérence, une linéarité entre l'expérience et ce qui s'est inscrit. Par contre, lorsque ces mécanismes de réassociation sont mis en jeu et de nouvelles traces s'inscrivent, il y a là une discontinuité. Les éléments constitutifs de ces nouvelles traces, c'est-à-dire des éléments des assemblées de neurones, bien sûr, ont été inscrits à partir d'une expérience ou de plusieurs expériences, mais la résultante est quelque chose de nouveau. Et en fait, dans notre modèle, nous pensons que ce processus de réassociation de traces est un élément important dans la constitution d'une réalité interne inconsciente ou disons de l'inconscient. Donc l'inconscient procède de cette discontinuité basée sur des mécanismes de plasticité. Ce n'est pas un système de mémoire, mais en même temps il est constitué à partir d'éléments qui proviennent de l'expérience. Là, c'est vraiment un point important, cette question de discontinuité. Et alors,
oui, je peux dire quelque chose. Peut-être que là, c'est un point, au fond, pour le praticien de la petite enfance, un point complexe, parce que on peut dire l'inconscient procède de la discontinuité, mais on pourrait dire aussi que le sujet aussi bien procède de la discontinuité. C'est-à-dire que le sujet n'est pas que... Alors ça, c'est un terme compliqué, puisqu'on est là pour réfléchir, parce qu'on a un débat avec Pierre, savoir comment situer sa tête. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas qu'une émergence depuis un système de traces qui se manifeste comme une manifestation, mais il est effectivement une émergence de la discontinuité. Des fois, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas utiliser un paradigme émergentiste. Je demande l'aide de mes collègues, parce que j'utilise émergentiste pour dire qu'on prendrait un ensemble de neurones et qu'on les laisse se développer, et que le programme donne, au fond, émergence. Il y a une mutation FOXP2, quand on commence à parler, parce que alors, on va mettre le gène FOXP2 chez les souris, en se demandant si les souris vont se mettre à parler, enfin des trucs de ce genre. C'est ce que moi j'appelle le matérialisme émergentiste. En même temps, si on prend dans le paradigme plus physique, enfin, dans cette synchronie, il y a une émergence, effectivement. Donc, j'ai un peu. Mais c'est une émergence qui procède de la discontinuité, et pas une émergence qui procède de la continuité. Donc, on peut dire que la discontinuité permet autant l'émergence du sujet que de l'inconscient. Donc, c'est aussi là, peut-être, un nouveau paradigme pour penser la périnatalité. C'est-à-dire que. Vous voyez, on est dans une terminologie de synchronie, de simultanéité, d'émergence synchronique par rapport à une discontinuité, d'éléments d'inattendu, de devenir, dans un monde qui a été énormément pensé en termes de développement et de matérialisme émergentiste.
Je crois que le plus simple, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de contraster développement et devenir. C'est vraiment développement, c'est un programme, devenir. C'est quelque chose qui émerge de l'expérience. Alors, comment est-ce que cette réassociation de traces, est-ce qu'il y a des évidences, comment elle pourrait se passer, finalement, du point de vue biologique? Comment des éléments d'une assemblée de neurones pourraient s'associer à d'autres pour constituer une nouvelle assemblée de neurones, par des inférences? Et en fait, toute une série d'expériences conduites au cours de la dernière décennie, et certainement de plus en plus ces dernières années, nous pointe un processus qui a été défini par un terme qui n'est peut-être pas idéal, de reconsolidation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est qu'en fait, dans des travaux de Christine Alberini, de Bouddha et de Doux, et bien d'autres, eux ont été les premiers, mais maintenant, c'est vraiment un paradigme qui est au centre des études des aspects cellulaires et moléculaires de la mémoire. Comme je dis, tous ces processus de plasticité sont surtout liés dans le contexte de la mémoire et de l'apprentissage. Eh bien, ce mécanisme de reconsolidation, c'est qu'en fait, chaque fois qu'une trace est réactivée, donc disons que cette trace-là est réactivée, tout simplement soit par en la réactivant à partir de la pensée, tout simplement, en pensant, ou dans une expérience analogue, eh bien, lorsque ces traces sont réactivées, la vision générale était de se dire ce qui est réactivé a tendance à se consolider. On pourrait prendre comme exemple tout simple l'apprentissage d'une poésie par cœur. Voilà, on la répète, on réactive, on répète, et ceci devrait nous amener à consolider. Alors, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas non plus toute l'histoire. Parce qu'en fait, ce qui a été démontré, c'est que la réactivation de la trace la rend labile, momentanément, transitoirement. La question de combien de temps est encore ouverte, est-ce que c'est quelques minutes, quelques heures, mais en tout cas, la trace, cette assemblée de neurones qui est réactivée est en fait labile. Elle peut donc finalement être ouverte à des associations avec d'autres éléments, d'autres assemblées de neurones. Et donc ce mécanisme de reconsolidation étudié est fait plutôt dans le contexte expérimental, enfin exclusivement dans le contexte expérimental de laboratoire, fourni et d'ailleurs est actuellement en train d'être utilisé dans des approches thérapeutiques particulières, j'en dirai un mot dans un instant, pour cette idée de l'habilité de la trace réactivée qui permet la réassociation est quelque chose qui se met en résonance avec l'idée de constituer une discontinuité par cette réassociation de trace. Donc on peut parler de mécanismes biologique qui aboutirait à cette discontinuité. Ce que je disais par rapport à la thérapeutique, c'est juste une parenthèse intéressante tout de même, et puis peut-être que je pense, même on a discuté avec François, je pense poser même à l'expérience psychanalytique, c'est-à-dire que la réactivation de ces traces qui les rendent labiles permettent aussi de constituer de nouvelles associations et de sortir de quelque chose qui se consoliderait, qui se répéterait. Donc cette idée de reconsolidation est vraiment quelque chose de très important, aussi bien pour la constitution d'une discontinuité que même pour l'intervention par la parole. Non, enfin, cette idée de, je crois qu'il est important de développement et de devenir. C'est vraiment, vraiment une notion sur laquelle il vaut la peine de ça. Maintenant que nous avons parlé de comment pourrait se constituer l'inconscient, comment on pourrait échapper justement au déterminisme de la plasticité, au déterminisme du développement, eh bien, passons un tout petit moment autour de ces deux idées de développement et de devenir. Alors, évidemment, une manière de voir les choses extrêmes, du côté très déterministe, serait de se dire, voilà, tout est dans nos gènes, nous sommes déterminés, notre comportement est déterminé par des gènes, ces gènes ont un programme développemental qui met en place le système nerveux et qui ensuite dirige essentiellement le fait que ces neurones soient mis en place d'une certaine manière, va aboutir à un certain type de comportement, c'est les circuits neuronaux, dont la position, dont l'articulation est déterminée par les gènes, en fait, détermine notre comportement dans une continuité totale. Et en fait, c'est peut-être ce modèle qui s'applique à l'animal. Je veux dire, l'animal est très fortement déterminé par ses gènes, les comportements sont très stéréotypés, on peut mettre ici comme étiquette à ce type de comportement déterminé par des gènes, déterminé par la mise en place d'un programme développemental qui aboutit à des circuits parfaitement déterminés, à ce qu'on appellerait un instinct. Chez l'humain, heureusement, les mécanismes de plasticité dont on vient de parler, et surtout ces mécanismes de réassociation, en fait, permettent d'échapper à ce déterminisme et en fait en créant notamment cette discontinuité et donc si on donne une étiquette à ce qui aurait une importance déterminante dans la mise en jeu d'un comportement, c'est plutôt la question de la pulsion.
Mettre au programme de la discussion cette histoire de devenir, hein. Donc on doit fabriquer des mots quand on a mis le vivant en excès, quand on a mis la question du temps et de la simultanéité, la question du devenir, c'est au fond, n'est-ce pas, qu'on est obligé de fabriquer des concepts que vous voyez dans les échanges qu'on a avec Pierre Maggi-Tréty, dans le vocabulaire neurobiologique, avec une série de faits neurobiologiques. Moi, j'ai des problèmes de faire des choix sur des termes aussi psychanalytiques à adopter. Donc, qui ne sont pas marqués forcément assez généraux. J'ai été intéressé à ce propos de voir comment Freud lui-même, dans Pulsion et Destin des Pulsions, tout au début de Pulsion et Destin des Pulsions, définit sa méthode en disant que font la psychanalyse ne procède pas par des définitions, mais plutôt par des relations entre différents concepts. Et d'ailleurs, cette citation de Freud m'a fait beaucoup travailler parce que en suivre le chemin, puisqu'elle vient de Ernst Mach, et que en fait, c'est tout à fait le texte Connaissance et Erreur de Mach à l'époque qui proposait non pas de procéder par définition, mais par relation entre des concepts. Donc là, on ouvre la question sur le devenir. Et maintenant, se pose le problème, hein, puisqu'on voit que le bébé peut y penser. Par rapport à l'inachèvement. Si on dit pourquoi la trace fonctionne au statut de la trace, ensuite comment la trace plasticité, on commence notre parcours, comment la trace plasticité. La plasticité introduit une discontinuité, qui introduit à la fois une discontinuité qui est sur le plan psychique et une biologie de la discontinuité. Maintenant, la question qui est centrale, c'est qu'est-ce qui régit les réassociations avec les traces. C'est-à-dire que, bien sûr, on se dit, ben, allez, les expériences, les actes du sujet, il y a l'interaction précoce, il y a le lien entre le bébé, l'environnement, l'interaction, mais enfin, bon, tout ça, plasticité, ça voudrait dire qu'on forme, n'est-ce pas, on serait dans l'environnement responsable de l'architecture du réseau neuronal de nos enfants. Bon, mais eux-mêmes participent, bien sûr, à la propre inscription de la chose, donc la question qui est centrale et qui est aussi celle qui va être très présente dans notre deuxième livre, Les énigmes du plaisir, c'est de penser à savoir qu'est-ce qui régit les réassociations de traces sur la base de la discontinuité et de la reconsolidation. Et que là, ça pose le problème des états somatiques et du plaisir et du déplaisir.
Alors si on, là on est actuellement à ce niveau de schématisme, donc perception, trace, réassociation de traces, voilà comment se constitue cette réalité interne inconsciente, comment se constitue le sujet. Mais ce serait de considérer le sujet comme étant un cerveau uniquement, un cerveau qui est sans corps. Parce que c'est clair que les états somatiques joue un rôle très important dans l'expérience. Alors ça peut, bon, peut-être ça vous parle, peut-être ça vous paraît un peu simple comme ça. L'idée, c'est comment ces traces de la perception vont interagir avec les états somatiques. Et là, on va faire une petite excursion dans les mécanismes par lesquels, en fait, états somatiques et perception peuvent s'associer et en fait jouer un rôle fondamental, on le verra dans un instant, autour de l'émergence du sujet. Alors, reprenons ici, perception, expérience, P, qui, bon, le terme mapping, ils sont en tout cas codés sous forme de traces, c'est-à-dire de représentations, d'assemblées de neurones, là je ne reviens pas là-dessus, je pense que ce premier processus ici est assez clair. Ce que l'on doit mettre en jeu maintenant, c'est qu'en fait, essentiellement à chaque perception, à chaque expérience, il y a un état somatique associé. Alors, ça, c'est pas nous qui le disons, ça procède des travaux déjà au départ de William James, qui, et ses études autour de la biologie des émotions, de la psychologie des émotions, et de son idée que finalement, les émotions émergent d'une mise en jeu entre une perception et un état du corps. Prenons alors le cas prototypique, c'est la peur ou la colère, enfin quelque chose de fort, c'est-à-dire, mais prenons la peur, une situation de danger, elle est perçue par le système visuel, auditif, intégré, etc. Mais elle s'accompagne également d'états somatiques clairs. Le rythme cardiaque augmente, la pupille sont dilatées, la transpiration augmente. Donc vous avez une perception et un état du corps. Selon William James, en fait, la perception est émotionnellement neutre et c'est en fait la coloration émotionnelle provient de son association avec un état du corps. Et bon, c'est la théorie de James Lange qui a d'ailleurs encore plus d'un siècle après encore débattu, qui a été remise en question par Cannon et Barre dans les années du 20e siècle. L'idée étant pour les théories contrastantes à celle-là, c'est que, en fait, c'est parce que on a peur, on a une représentation de la peur, que les états du corps sont modifiés. Or, selon James, en fait, c'est l'inverse, c'est parce qu'on est dans un certain état du corps que cette perception devient émotionnellement chargée. Donc, et ça, c'est une petite parenthèse historique. Tout ça a d'ailleurs été repris de manière très intéressante par Damasio avec sa théorie des marqueurs somatiques et le rôle des états somatiques dans la prise de décision. Des choses qui sont très proches d'ailleurs de notre manière de penser. Et donc, partant de ce principe que la perception est associée à un état somatique, donc la trace de la perception, le wahrnehmung zeichen, va être associée à une trace de l'état somatique. Et que ceci va se poursuivre tout au long de la réassociation de traces et qu'on peut avoir, même dans la discontinuité dont je parlais tout à l'heure, des nouvelles traces qui se sont constitués par les mécanismes de réassociation, mais qui vont être encore marqués, et là le terme de Damasio excellent, marqués par un état somatique. Alors, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui pour pouvoir dire que, en fait, par quel mécanisme une perception est associée à un état somatique, et puis ensuite, comment on peut inscrire ces états somatiques associés à la perception dans notre système nerveux. Alors, brève excursion dans l'anatomie fonctionnelle, il y a certainement peut-être plusieurs circuits qui impliquent, qui permettent ça, mais certainement un qui est absolument au centre, c'est le noyau amygdalien qui fait partie du système limbique. Et ce noyau amygdalien a une structure assez complexe, mais si on la simplifie un tout petit peu, il y a une région qu'on appelle le noyau basolatéral qui, en fait, sur lequel convergent essentiellement toutes les modalités sensorielles, qu'elles soient visuelles, auditives, somatosensorielles, particulièrement olfactives. Donc, finalement, au niveau du noyau basolatéral, la réalité externe perçue par les systèmes sensoriels converge. Après, non, pas après, c'est pas un cortex sensoriel primaire, c'est après plusieurs synapses, mais finalement, l'information arrive au noyau basolatéral. Ce noyau basolatéral connecte, et là il y a une circuitrie assez complexe, avec une autre partie de l'amygdale qui est le noyau central. Mais ce qui est important, c'est que ce noyau central projette de manière importante vers l'hypothalamus et vers le tronc cérébral, c'est-à-dire vers des régions impliquées dans des régulations endocriniennes et neurovégétatives. Donc en fait, peut-être la notion importante à retenir, c'est que l'amygdale, le noyau amygdalien, peut être vu comme un transducteur entre le monde externe et des effets qui peuvent être déclenchés sur le corps, au niveau, sur le monde intérieur, si on veut. Parce que le système neuroendocrinien, le système neurovégétatif sont des systèmes moteurs, quelque part, qui vont modifier l'état des viscères, l'état des systèmes endocriniens. Alors, tout ça est intéressant, mais évidemment, il faut s'imaginer qu'il existe un système qui permet ensuite de détecter ces changements de l'état du corps. Si on a simplement un système effecteur qui modifie l'état du corps, il serait difficile d'associer ensuite une représentation à l'état du corps. Donc, il faut s'imaginer qu'il existe un système qui détecte l'état somatique. Et ce système a été très étudié au cours des 10 dernières années. C'est étonnant, autant les neurosciences se sont beaucoup occupées des systèmes extéroceptifs, vision, audition, somatosensoriel, etc. Mais très très peu de ces systèmes sensoriels qui nous informent sur l'état intérieur de notre corps. Un tout petit peu le système proprioceptif avec la position des articulations et des muscles, mais très peu sur ces systèmes qui détectent l'état des viscères. Or, ce système a été vraiment étudié de manière détaillée et vraiment très intéressante. On a eu l'occasion de l'inviter à Lausanne, où il habite en Arizona, il n'a pas une très bonne santé, donc ce n'est pas évident de le faire se déplacer, mais c'est Arthur Craig, C-R-A-I-G, ou Bob Craig, les gens l'appellent Bob, B-I-B, Craig, qui a écrit quelques articles excellents que je vous recommande vraiment. Dans les revues de neurosciences, Nature Neuroscience, notamment une revue Nature Neuroscience Reviews de 2009, décembre 2009, où il a justement décrit en détail ce système et surtout ses implications au niveau du psychisme. Donc ce système, finalement, il est relativement... Donc c'est ce qu'on appelle le système interoceptif, à contraster avec le système extéroceptif. Ce système interoceptif, en fait, est organisé comme finalement tout système sensoriel, c'est-à-dire qu'il y a des neurones qui pénètrent par la corne postérieure de la moelle au niveau segmentaire, et ensuite croisent au niveau de leur entrée dans la moelle, et ensuite utilisent le spinothalamique, donc cette voie sensorielle qui se trouve dans la face antérolatérale de la corne, de la moelle, et arrive au thalamus, comme tout système sensoriel, c'est vraiment la garde triage de tous les systèmes sensoriels, au thalamus. Mais là, en fait, cette projection se poursuit ensuite vers ce que l'on peut appeler un cortex interoceptif, qui est un cortex sensoriel primaire, comme le cortex visuel primaire, comme le cortex auditif primaire, etc. Donc, dans notre cerveau, il y a une région sur laquelle converge, et il semblerait même avec une certaine somatotopie, une représentation du corps, du viscère, au niveau de cette cortex interoceptique qu'on appelle l'insula. Ensuite, on verra, on en a beaucoup parlé dans ce deuxième livre, de cette insula, qu'on a appelé l'île de la pulsion, parce que, en fait, elle est importante, nous pensons. Cette insula, je vais parler dans un instant de sa connectivité, mais peut-être avant, une notion qui nous semble aussi la très importante. Là, ce schéma peut-être un petit peu compliqué, mais en fait, il n'est pas si compliqué que ça. En fait, cette barre horizontale ici, noire, distingue le système interoceptif des espèces qui ne sont pas des primates, enfin, et cette partie, les primates supérieurs, d'ailleurs pas tous les primates, mais l'humain, bien sûr, et les grands singes, et un tout petit peu chez les primates. De quoi s'agit-il? Voilà donc le système interoceptif dont je viens de parler, qui fait synapse avant le thalamus d'ailleurs, au niveau déjà des relais, au niveau du tronc cérébral, peu importe, du noyau crânien solitaire, tout ça, peu importe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, il y a au niveau du tronc cérébral, et voire jusqu'à l'hypothalamus, des boucles qui, en fait, reviennent sur le système neurovégétatif qui, lui, va modifier l'état du corps. Et en fait, ce sont des boucles réflexes. Je prends un exemple tout simple, peut-être vous le ressentez maintenant, après un café, un peu d'eau, vous avez une dilatation de la vessie qui va être détectée par le système interoceptif et vous avez des réflexes de vision qui sont mis en jeu par cette boucle sensorique motrice, le système neurovégétatif, qui va faire que vous allez vider la vessie. Bon, mais heureusement, nous avons un étage supérieur, on peut contrôler ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les animaux. Donc, c'est un exemple un peu comme ça, un peu terre à terre, si je puis dire, mais ce qui est important, c'est de se dire que, autant chez les espèces, chez les non-primates, finalement, le système interoceptif, donc l'état du corps, est essentiellement un système qui fonctionne de manière réflexe, avec des réponses motrices, automatiques, réflexes. Chez l'humain, par le fait que ces informations de l'état du corps vont jusqu'à l'insula, et qu'ensuite cette insula va projeter aussi vers le cortex singulaire antérieur, qui est un cortex impliqué dans les fonctions exécutives, on voit que l'état du corps peut maintenant entrer dans la cognition, ou en tout cas dans la pensée. Et ce n'est pas un système purement réflexe qui informe par rapport à une sorte d'homéostasie automatique. Nous avons une couche supérieure qui entre en jeu dans l'homéostasie. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, de quoi s'agit-il? Passons à l'insula. Cette insula reçoit au niveau postérieur, la insula postérieure, ces afférences primaires interoceptives, comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme un cortex somatosensoriel, sauf que c'est pas du l'extérieur, mais c'est de l'intérieur que l'information arrive.
Oui, là, j'ai juste pour pointer l'écoute, parce que ça, c'est quelque chose qui est central dans ce travail qu'on a fait, ce nouveau livre que je vais vous présenter Pierre maintenant. Je suis presque le commentateur hérétique du discours biologique, c'est-à-dire pas dire que c'est seulement un développement qui nous inspire. C'est que vous verrez qu'ici il y a tout l'enjeu entre la représentation de l'état somatique et la représentation connectée avec quelque chose d'autre, donc vraiment toute cette question du représentant de la représentation qui est au centre de cette spécificité finalement de l'humain, que d'avoir les connexions que Pierre va vous présenter maintenant. Donc, c'est une autre forme de discontinuité. Notre idée, c'est que le bébé, dans sa construction psychique, procède à la discontinuité, d'un côté à travers l'association des traces, à travers l'expérience contingente, et aussi à ce niveau-là, dans l'articulation entre le traitement de l'état somatique et des traces où il y a cette discontinuité mise en jeu par une représentation de l'état somatique.
Voilà, donc, alors là, il y a une représentation de l'état somatique au niveau de l'insula postérieure. Et là, Craig lui-même, j'ai parlé avec lui, il n'est pas du tout dans la psychanalyse, lui-même parle d'une re-représentation, ce que vient de dire François, au niveau de l'insula antérieure. Et en fait, ce qui se passe ici au niveau de l'insula antérieure, c'est que cette re-représentation, cette méta-représentation des états somatiques, comme il y a une méta-représentation au niveau des cortex frontaux par rapport au cortex somatosensoriel, donc c'est tout simplement une intégration de l'information qui va au-delà de la simple information primaire, c'est des zones d'intégration. Eh bien, au niveau de l'insula, il y a une intégration de cette information primaire dans une méta-représentation, on pourrait l'appeler S1, et en fait, cette représentation ou cette méta-représentation de l'état du corps s'associe avec, parce qu'il y a des afférences importantes au niveau de cette insula antérieure, d'informations extéroceptives, mais également, par exemple, de projections qui proviennent des noyaux dopaminergiques impliqués dans les mécanismes de récompense et de motivation. Donc, cette insula antérieure est un site, on ne peut pas être non plus, on est toujours très attentif à ne pas être localisationniste, enfin, il faut quand même admettre qu'il y a quand même il y a quand même quelques circuits qui sont organisés dans le système nerveux, heureusement pour nous. Il y a dans cette insula antérieure l'intégration de S des états somatiques et R des représentations du monde extérieur. Et de dernier élément, en fait, cette insula antérieure projette de manière très importante vers le cortex singulaire antérieur qui, comme vous le savez, est une région fortement impliquée dans la mise en action de l'action, en fait, dans les fonctions exécutives. Et du point de vue de l'imagerie cérébrale, de nouveau dans cette revue de Craig qui est très intéressante, il pointe sur le fait que chaque fois que des études ont été effectuées, soit pour étudier l'insula antérieure, soit pour étudier l'insula, pour voir dans différents contextes expérimentaux, l'insula antérieure et le cortex singulaire antérieur sont toujours actifs ensemble. C'est comme on pourrait le dire, l'insula antérieure est la partie sensorielle du système limbique et le cortex singulaire antérieur est l'élément moteur du système limbique. Voilà. Et donc, ce nouage RS se fait au niveau de cette insula antérieure. Alors, je vais peut-être laisser à François.
Oui, c'est-à-dire que là, c'est évidemment, on dit tout le temps qu'on n'est pas dans le modèle analogique, qu'il ne s'agit pas d'une traduction, qu'il faut beaucoup se méfier, que neurosciences et psychanalyse sont comme une mesure, qu'il y a des intersections, et que les intersections, pour nous, dans le premier livre, était la question de la trace laissée par l'expérience, la plasticité. On voit que dans le deuxième, on met aussi la question de l'état somatique, on met aussi la discontinuité. Finalement, cette intersection qu'on a voulu extrêmement rappeler au début se peuple de beaucoup de choses et de questions communes, de points de butée communs entre psychanalyse et neurosciences. Et là, avec toute cette question de la sensorialité et du traitement du vivant, aussi entre la construction du psychisme du bébé et la façon dont les relais des neurosciences posent des étapes d'intégration tout à fait fondamentales. Alors évidemment, on est tenté à mettre en parallèle Craig et Freud, avec effectivement cette idée d'une représentation dans l'insula postérieure et de cette représentation qui permettrait de remettre en actualité la question du représentant de la représentation, enfin, ce terme aussi impossible à traduire, qui a fait couler beaucoup d'encre, Vorstellungsrepräsentanz, c'est-à-dire ce double mot que Freud a utilisé, puisque l'allemand lui permettait, et que nous, on est par rapport à ça très embêtés. Parce qu'on n'a pas ce double mot entre Vorstellung et représentant, mais enfin, représentant de la représentation, enfin, il y a la question de la représentance qui met en jeu la représentance de la pulsion comme un ambassadeur, n'est-ce pas? L'ambassadeur de Suisse à Beyrouth représente la Suisse, mais n'est pas la Suisse. C'est-à-dire qu'il y a une représentation, il y a là une coupure tout à fait l'ambassadeur de la pulsion, mais pas forcément marqué par la fonction de représentant, c'est différent, ça propre. Et que là, on a, au fond, on encourage à revisiter dans l'approche du bébé et des modèles qui nous orientent la question du représentant, de la représentation, qui est certainement une question tout à fait fondamentale.
Alors, pour terminer sur cette partie mise en jeu par laquelle il y a, disons, un substrat biologique pour la mise en tension entre R, une représentation, et S, état somatique, notre cerveau est fait de manière à ce qu'il puisse détecter la réalité externe par les systèmes sensoriels primaires qui projettent vers le thalamus, de là à l'amygdale, qui peut, par ses systèmes effecteurs, modifier les états somatiques. Et donc, on voit comment la réalité externe peut se traduire dans un état somatique interne. Cet état somatique interne peut ensuite être lu par les systèmes interoceptifs qui projettent sur l'insula avec ses interactions avec d'autres projections, notamment au niveau de l'insula antérieure, et finalement converger vers le singulaire antérieur et, en fait, entrer en jeu dans l'action qui, d'ailleurs, c'est intéressant, cette action va être perçue par le sujet et redevenir une réalité externe qui elle-même sera perçue, etc., etc.
Alors, voilà, donc évidemment, ce point, je passerai peut-être un peu vite pour accélérer, mais enfin, ce point, il ne faut pas accélérer, oui, n'accélérons pas, autrement, ça fait des effets de passe-passe. Donc, on n'accélère pas, donc évidemment, nous sommes là, nous retrouvons là l'abord pulsionnel dans le devenir du bébé. Et qu'on a effectivement la mise en jeu d'état somatique avec la représentation de cet état somatique et la mise en jeu d'une expérience avec la représentation de cette expérience, la tension entre les deux avec cette nécessité de décharge de la pulsion à fonction homéostatique, c'est-à-dire que la décharge de la pulsion vise la satisfaction, comme vous le savez, vous avez défini la source somatique, définit l'objet de la pulsion, qu'est-ce qui est le plus indifférent, puisque c'est ce qui sert au but de la pulsion, qui est la satisfaction. Donc là, il y a une dimension, effectivement, de mise en jeu homéostatique, dans la définition même de la pulsion, entre la question de l'état du corps et de la représentation. Si on reprend le schéma complexe neurobiologique, on voit qu'il y a un double destin, c'est-à-dire qu'il y a un destin direct, qui pourrait être ici le système perception-conscience, qui détermine l'action, et un autre destin qui passe par les états somatiques, et qui, par le fait des états somatiques, implique une tension et une nécessité particulière de décharge qui vient parasiter l'action, avec l'idée, évidemment, peut-être prenons dans ce schéma, surtout le fait que ça peut être autant l'état somatique que la représentation qui est en jeu dans la question de la décharge pulsionnelle. Alors tout ça pour dire que dans le modèle de Damasio, comme vous le savez, l'idée c'est que l'action, la prise de décision, est d'abord déterminé par l'anticipation d'un état somatique, de plaisir ou de déplaisir. Et que c'est l'anticipation du plaisir qui vient déterminer l'action. Et que entre l'action va être déterminée par le choix entre un état somatique S1 ou un état somatique S2, de plaisir ou de déplaisir. Et qu'on pourrait dire que ce que Damasio a développé autour de l'anticipation du plaisir ou du déplaisir à propos de la détermination de l'action pourrait être repensé par rapport à la question de l'inconscient, c'est-à-dire la place de la pulsion à la place de la décision. C'est-à-dire qu'on pourrait reprendre une lecture de l'erreur de Descartes, une lecture de ce texte qui dit qu'effectivement c'est plus par rapport à la question de la peine ou du plaisir que se prend une décision et que se détermine une action, de le prendre selon le même raisonnement que Damasio, en mettant en jeu les marqueurs somatiques, cette fois non pas au niveau conscient, mais au niveau inconscient, et remplacer décision par pulsion. Alors, par rapport à ce développement, peut-être que je pourrais quand même vous faire un saut dans l'exposé. C'est-à-dire reprendre ici le fameux schéma proposé par Freud, qui est quand même totalement révolutionnaire dans la négation. C'est-à-dire dans la négation, il dit, au fond, il y a une série de représentations qui sont associées à des états somatiques. Si survient une nouvelle perception, une nouvelle expérience, cette nouvelle expérience est ou bien reprise dans le moi comme bonne, ou bien expulsée, incluse ou exclue. Einbeziehung ins Ich, prise comme expérience, ou Austauschung aus dem Ich, éjectée comme expérience. Ce que présente Freud dans la négation en 1925 est tout à fait l'hypothèse centrale des travaux de Damasio. C'est-à-dire que il y a inclusion, exclusion du moi en fonction du plaisir et du déplaisir. C'est-à-dire en fonction de ce que Freud appelle le jugement d'attribution de plaisir et de déplaisir, dont il dit dans ce texte de 1925, qui est un texte absolument central aussi dans la constitution de la psyché, c'est-à-dire que le jugement d'attribution de plaisir et de déplaisir qui fait que l'expérience est prise ou pas prise précède le jugement d'existence. Et que ce point-là, avec Freud, avec Damasio, avec Craig, avec la question des marqueurs somatiques, est une question qui introduit la psychanalyse comme une alternative fondamentale aux perspectives des traitements cognitivo-comportementaux qui, eux, au contraire, pensent qu'il y a une sorte de computérisation qui permet d'abord l'existence sur laquelle va se greffer du plaisir et du déplaisir. Or, avec la perspective des traitements cognitivo-comportementaux qui voudraient à ce moment-là scinder l'expérience somatique du...
Oui. Je ne peux pas hésiter à faire un commentaire. En fait, cette idée de qu'est-ce qui, disons, cette notion de jugement d'attribution qui précède le jugement d'existence en se basant sur les états somatiques et leur perception par les systèmes qu'on vient de voir, par rapport à la vision plutôt cognitive ou comportementale, où en fait il y a d'abord un jugement d'existence et ensuite un jugement d'attribution, me rappelle vraiment énormément la controverse qu'il y a eu entre la théorie de James et Lange par rapport à Cannon et Barre. Qu'est-ce qui vient d'abord? Est-ce que c'est, en fait, dans ce contraste, qu'il y a l'état somatique qui détermine l'émotion, alors que Cannon et Barre, c'est la cognition qui détermine l'état somatique. Et c'est intéressant, c'est la première fois que je pense à ça, mais je ne peux pas résister.
Oui, non, mais c'est... Alors, ce schéma, donc, est sur le statut de la trace en permanente périnatalité et le statut de l'expérience précoce, évidemment, tout à fait fondamental, puisqu'il est aussi dans l'idée qu'une expérience est prise dans la constitution de la psyché en fonction du jugement d'attribution de plaisir et de déplaisir. C'est comme ça d'ailleurs que Freud le prend dans son article de 1925. Dans cet article, il est tellement riche à le lire et à le tourner dans un sens ou dans un autre qu'au fond, il introduit aussi des questions plus vastes, puisque dans ce texte, comme ceux qui le connaissent bien, à la fin, Freud dit aussi que c'est l'alternance entre des tâtonnements, enfin, exploratoires, c'est le fait de l'alternance entre investissement et non-investissement qui est à la base de la création de la représentation du temps. C'est-à-dire qu'au fond, tout serait d'abord dans la simultanéité et secondairement, par ces discontinuités, se crée la notion du du temps, et qu'on peut dire que l'émergence du sujet, c'est aussi l'émergence de la temporalité. Alors revenons en arrière, en disant que, évidemment, dans cette conception de la pulsion comme le résultat d'une action par rapport à une représentation et un état somatique avec une décharge qui vise le rétablissement homéostatique, ce qui est central, c'est la notion de bouclage du circuit de la pulsion. Et je pense que cette notion des trois temps de la pulsion, tel que Freud le construit dans Pulsion et destin des pulsions, et que Lacan a beaucoup repris dans le séminaire 11 sur les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, il a fait toute une construction de ces temps. Le premier temps, le temps de la pulsion scopique, c'est l'exemple que prend Freud dans son texte de la métapsychologie, c'est-à-dire voir. Oui, là j'ai tourné mes trucs à l'envers, c'est égal. Excusez-moi, c'est parce que j'ai traduit de l'anglais. Bon. C'est-à-dire voir, être vu, deuxième temps, donc là les temps sont à l'envers, voir, être vu, et troisième temps, se faire voir. C'est-à-dire que ce troisième temps, c'est celui du bouclage de la pulsion qui va avec la satisfaction. Et qu'on pourrait se demander si certaines formes de difficultés de certains enfants à entrer dans le monde de l'autre, ce n'est pas d'abord à examiner par rapport aux trois temps de la pulsion. C'est-à-dire qu'un abord, la question de l'autisme pourrait être un abord de la question du non-bouclage de la pulsion, par lequel, justement, la satisfaction vient permettre à l'enfant de s'articuler au monde de l'autre déjà là. Et le mouvement serait pulsionnel pour permettre l'accès au monde de l'autre à travers ce troisième temps de pulsion, bouclage de la pulsion, qui est essentiel à la question du plaisir et du traitement de l'excès du vivant. Alors moi je propose qu'on saute la question de l'activité basale parce qu'elle est peut-être contenue dans ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire en sorte de l'activité basale. Donc je vous le présente en disant que si on se dit que justement par rapport à l'urgence de la vie, la question c'est le traitement de l'excès du vivant, la fonction homéostatique, la trace, la dimension du plaisir qui permet de prendre l'expérience dans la vie psychique, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que cette activité basale du cerveau qui est tellement importante. Et je pense qu'au programme du lien entre clinique périnatale, neurosciences et psychanalyse, il y a toute la problématique du default mode et de cette dimension du default mode qui aujourd'hui occupe une place centrale dans des réflexions sur l'autisme, dans des réflexions sur la dépression et au fond pourrait être l'objet d'une conférence en elle-même autour de la périnatalité et de la construction de l'individualité. Et vous trouverez dans les énigmes du plaisir tout un développement sur cette question du default mode. Pour arriver à la question sur laquelle on va peut-être terminer, c'est-à-dire que, en d'autres termes, si vous suivez ces modèles, fonction homéostatique de la trace, traitement du vivant, activité basale, default mode, tout ça avec des régulations dont Pierre ne vous a qu'effleuré les mécanismes fondamentaux, devrait donner une physiologie qui devrait aboutir à quelque chose qui serait aussi homéostatique sur le plan psychique. Or, toute notre activité professionnelle, l'existence même de la psychanalyse vient du fait que tout ça produit quelque chose de complètement dysfonctionnel. Donc c'est vrai que parfois, en lisant tous les travaux de neurosciences fondamentales, on se dit que les neuroscientifiques sont en train de construire une sorte d'utopie du fonctionnement normal du vivant qui devrait être quelque chose d'harmonieux et qui peut suivre un programme vers le plaisir et l'homéostasie et l'équilibre. Or, force est de constater que les choses sont dans un sens concret. Donc on retrouve la même question que Freud s'est posée en 1920, à savoir que malgré la psychanalyse, malgré le principe de plaisir, même si le principe de plaisir n'est que un principe de non-déplaisir, il y a un échec au principe de plaisir. Et toute la clinique, tout notre champ d'activité, tout ce qui accompagne les questions autour du développement et du devenir du bébé, nous fait buter sur la question, la grande question freudienne, c'est d'où vient le malheur, d'où vient le malaise. Qu'est-ce qui préside à ce point-là à l'échec du principe de plaisir? Alors, donc là, on va passer comme ça. Oui. Oui. Peut-être qu'il faut faire raccourci. Oui. On va essayer de raccourcir. Je vous propose de raccourcir comme ça, c'est-à-dire de dire que nous sommes ici en majorité des cliniciens du bébé, des psychanalystes, des gens formés à la psychanalyse. C'est qu'on peut se dire que Freud, dans sa construction, a cherché des mécanismes biologiques, une contrainte biologique pour expliquer cette tendance au déplaisir et à cette compulsion de répétition. Il l'a cherché, donc il a montré qu'il y avait une compulsion à répéter quelque chose de désagréable. Il a pris à partir du jeu, on fera un jour un exposé d'une relecture ligne après ligne de l'au-delà du principe de plaisir. Et il a cherché une biologie de cet au-delà du principe de plaisir. Il a cherché une biologie. Et il a dit à la fin de son livre qu'il renonçait à trouver cette biologie. Certains psychanalystes ont lu ce renoncement annoncé par Freud, qui était déjà aussi annoncé à partir du fait qu'il n'a pas publié l'esquisse de Freud, comme le fait que la psychanalyse commençait au moment où Freud a abandonné sa perspective biologique. Or, on pourrait se dire que ce n'est pas ça que dit Freud. Si vous lisez vraiment ligne après ligne, ce qu'il dit, c'est que la biologie de son époque ne lui permet pas de résoudre la question qu'il pose. Et que ces histoires d'unicellulaires, de multicellulaires, d'évolution, de loi de Weissmann et de choses et autres, lui a d'intoxication unicellulaire par ses propres produits, etc., qui sont très intéressants, très stimulants. René Roussillon a fait un résumé au Collège de France dans le séminaire qu'on avait ensemble, de publier le livre Neurosciences et Psychanalyse, mais enfin, ne permet pas vraiment de résoudre cette question. Et puis, au fond, il dit, la biologie, il finit son texte en disant, la biologie est un domaine aux capacités exceptionnelles, qui, dans quelques décennies, nous permettra peut-être de dire pourquoi il y a ce phénomène tellement étrange de l'au-delà du principe de plaisir. L'au-delà du principe de plaisir, pour aller vite, c'est jenseits, c'est-à-dire l'autre rive. C'est pas un au-delà transcendant. C'est l'idée qu'il y a une autre rive au principe de plaisir, au plaisir. Et l'autre rive du plaisir, c'est le déplaisir. Et que la thèse centrale des énigmes du plaisir, c'est que plaisir et déplaisir vont ensemble. C'est ça que Freud montre. Ils vont ensemble de façon indissociable. Et qu'on pourrait se dire que plaisir et déplaisir sont noués ensemble dans l'au-delà du principe de plaisir. Ou, comme vous savez que j'ai une compulsion lacanienne à citer Lacan, dans ce que Lacan appelait la jouissance, parce qu'il a voulu trouver un autre mot pour l'au-delà du principe de plaisir. Finalement, la jouissance, c'est l'au-delà du principe de plaisir. Il a choisi ce mot qui est plein d'ambiguïté, qui est impossible à traduire. Parfois, je me suis demandé pourquoi il a choisi ce mot. Peut-être que c'était une époque, Georges Bataille, c'est-à-dire qu'il y avait toute une littérature du passage du plaisir au dégoût, à l'entrop, à l'insupportable, à l'intérieur même du processus de plaisir. Donc il a choisi ce mot intraduisible en anglais de jouissance qui est ambigu en lui-même pour désigner cet au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire que plaisir et déplaisir se trouvent par quelque chose dramatiquement noué dans la jouissance, dans l'au-delà du principe de plaisir. Et qu'on peut avoir ce phénomène avec un fantasme qui commence à devenir tellement organisateur de la vie du sujet, une telle fenêtre sur le monde, que ce fantasme qui s'organise petit à petit dans la construction de la subjectivité va devenir quelque chose à quoi le sujet va rester fixé par un système de jouissance. C'est ça la psychopathologie commune, c'est que non seulement il y a un sens, une histoire, quelque chose de latent qu'on peut travailler, mais qu'on voit bien en analyse que tout le problème sur lequel a remporté Freud, c'est que des sujets, même s'ils arrivent à saisir le pourquoi et le comment de leur piège qu'ils ont construit au gré de leur devenir, restent fixés à ce piège par un système de jouissance. Et que je pense qu'il est intéressant maintenant d'écouter comment on peut aujourd'hui examiner ce système de jouissance.
La discussion est venue du fait que, comme vient de dire François, le fantasme, c'est l'instruction qui est une solution mais qui devient un piège avec le temps et auquel le sujet est addict, devient dépendant parce qu'il y a une sorte d'addiction au fantasme dans cette compulsion de répétition. Et alors, ça c'est une chose, et puis de l'autre côté, comment imaginer ce nouage entre plaisir et déplaisir? Et en fait, on a trouvé en fait une piste intéressante de réflexion qui nous vient de la neurobiologie de l'addiction et en particulier des processus, de la théorie des processus opposants qui a été entre autres promue par Michel Lemoal à Bordeaux avec George Kuhn. Et cette théorie des processus opposants mérite en tout cas d'être mise sur la table et d'y réfléchir en relation à cette compulsion de répétition, à la coexistence, au nouage de plaisir des plaisirs. Parce qu'en fait, sans même aller trop vite, on voit quand même chez la personne dépendante, en fait, on voit justement une coexistence de plaisir des plaisirs et une compulsion à répéter. Donc, comment biologiquement on pourrait, comment en fait cette théorie des processus opposants déploie-t-elle dans le contexte de l'addiction, selon Lemoal et Kuhn? Eh bien, c'est l'idée qu'il existe, en fait, et il y a des données biologiques pour ça, en simplifiant un tout petit peu, dans le cerveau des systèmes de récompense et des systèmes d'anti-récompense. Le système de récompense bien connu, a été beaucoup étudié, beaucoup évoqué, c'est ce fameux système dopaminergique mésolimbique qui a son origine dans l'aire tégmentaire ventrale, ici, donc dans cette région profonde du cerveau, et ensuite qui projette surtout, en particulier, notamment dans ces régions frontales, dans ce cortex singulaire antérieur, dont on a vu qu'il est appliqué dans les processus exécutifs. Et puis, un autre système qui, selon notamment les résultats expérimentaux obtenus par Kuhn et Lemoal, mais d'autres encore, ce système noradrénergique qui a son origine dans le locus ceruleus, qui projette de manière diffuse à travers le système nerveux, et également, c'est une sorte de système de stress intracérébral, stress au sens très large du terme, c'est un système attentionnel en particulier, et en plus, un autre système qui n'est pas représenté ici, mais c'est le système CRF cortisol. Donc un système vraiment, alors, lui, qui est vraiment du stress au niveau somatique. Alors, dans la théorie des processus opposants appliquée à l'addiction, le point de vue de Kuhn et Lemoal, c'est qu'en fait, lors de la prise de substances addictives, il y a, et ça c'est bien connu bien sûr, une activation du système dopaminergique. En fait, toutes les substances, soit de manière directe, comme les amphétamines ou la cocaïne, qui directement modulent le système dopaminergique, mais même d'autres, comme la morphine, les opiacés, l'héroïne, l'alcool même, en fait, activent le système dopaminergique. Donc ce système de récompense, pour simplifier un petit peu. Ce que Kuhn et Lemoal ont montré, c'est qu'en même temps qu'il y a activation de ce système de récompense par les substances addictives, il y a également activation du système céréluo-cortical, donc noradrénergique, et du système CRF-cortisol au niveau hypothalamo-hypophysaire surrénalien. Donc un système de stress essentiellement, mais ils définissent comme un système d'antirécompense. Donc la prise de drogue active simultanément un système de récompense et un système d'antirécompense. Donc c'est la formalisation expérimentale, plutôt c'est la démonstration, enfin c'est l'évidence expérimentale de la formalisation par les processus opposants proposés de la mise en jeu de par une action de deux processus contrastants, opposants. Le problème, c'est que par les mécanismes, notamment de la plasticité, le système dopaminergique, devient en fait de moins en moins efficace. Et le système anti-récompense devient de plus en plus efficace. Et Goubet-Lemoyle explique les mécanismes de tolérance et de dépendance aux drogues par en fait une diminution du plaisir et de la récompense, qui est une évidence clinique, et donc une tolérance, il faut augmenter les doses, et en même temps, une augmentation du déplaisir par l'activation de ce système de anti-récompense qui devient de plus en plus efficace, et donc une dépendance, parce qu'en fait, l'idée, de nouveau selon le mot à l'époux, c'est que la prise de drogue continue et en fait s'accélère et augmente et rend le sujet dépendant, non pas pour rechercher du plaisir, mais pour faire cesser le déplaisir. Et d'où cette dépendance. Donc, dans cette théorie des processus opposants appliqués à l'addiction, en fait, la transmission dopaminergique devient de moins en moins efficace, donc le plaisir devient de moins en moins efficace, et moins présent plutôt, et par contre, le déplaisir augmente avec l'augmentation de ces neurotransmetteurs. Et donc, si on transforme, si on transmet au niveau ces concepts provenant des neurosciences à la psychanalyse, on peut dire que l'impulsion, impulse control en anglais, l'impulsion, la motivation à prendre la drogue est à la base au départ de l'activation d'un système de récompense, mais qui en fait met en jeu également un système d'anti-récompense. Et en termes psychanalytiques, cette impulse, cette pulsion, on peut remplacer ce terme par pulsion, par plaisir, remplacer les termes de système de récompense, mais le système d'anti-récompense, c'est le déplaisir ou c'est au-delà du principe de plaisir. C'est donc l'autre rive, jenseits der Lustprinzip, donc de l'autre côté du principe de plaisir. Et voilà pour la discussion, cette mise en tension de concepts qui émergent de la théorie des processus opposants et de l'addiction. Avec le côté, les aspects, les concepts psychanalytiques de plaisir et déplaisir, avec cette idée que le fantasme est finalement est une addiction et qu'il y a une compulsion à répéter, mais qui aboutit essentiellement à du déplaisir.
Voilà, donc je crois qu'on va arrêter là, donc la suite de notre parcours pour faire le trajet complet de l'exposé qu'on avait prévu, introduisait la question de les inconscients, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un versant de l'inconscient qui est du côté de la compulsion de répétition, et il y a un troisième inconscient que Freud définit dans le moine ça juste en note, qui est un inconscient discontinuité, et on terminait l'exposé sur la mise en jeu de ces deux versant de l'inconscient et aussi l'enjeu de la clinique psychanalytique et du traitement psychanalytique par rapport à la compulsion de répétition qui est le problème au centre de la clinique. Donc on finissait par donner deux versants d'inconscient, un inconscient déterminé par l'autre rive et un inconscient qui permet la coupure et finalement une discussion sur les différents mécanismes qui affranchissent du déterminisme qui était la fin de l'exposé qu'on avait prévu pour l'application de nos réflexions et de notre modèle à quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un nouveau travail, c'est-à-dire l'application à un modèle sur la question du devenir appliqué à la clinique du périnatal et du bébé. Voilà.